bienvenue dans cette émission. Deux juges de la Cour constitutionnelle nommés en juillet dernier à la Cour de cassation par le président Félix Tshisekedi ont refusé ces changements des postes, préférant achever leur mandat actuel. Dans une lettre conjointe adressée au président de la République, les juges Noël Kilomba et Jean Oboulou expliquent qu'en conformité à la Constitution, ils se trouvent dans l'obligation de rester à la Cour constitutionnelle pour y achever leur mandat constitutionnel de 9 ans avant de se remettre à la disposition du pays. Ils affirment également avoir appris leur nomination à la Cour de cassation par voie des ondes et sans consultation préalable. Comment interpréter la position de ces deux juges et quelles pourraient en être les conséquences sur le plan juridique? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons dans cette émission Dr Kodjo Ndoukouma, il est professeur de droit et régime politique comparé. Il est aussi membre du PPRD, parti de la plateforme FCC. Bonsoir Dr Kodjo Ndoukouma.
Bonsoir Monsieur Maté.
Maître Peter Kazadi, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de la plateforme CASH. Bonsoir Maître Peter Kazadi.
Bonsoir.
Et Maître Willy Wenga, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Bonsoir Maître Willy Wenga.
Bonsoir Radio Capi, bonsoir.
Bienvenue une fois de plus à tout le monde dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Deux hauts magistrats qui ont refusé de prêter serment mardi devant le chef de l'État sont réputés démissionnaires en ayant un mois de leur notification s'ils ne prêtent toujours pas serment. Permittés de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation, Jean Oboulou et Noël Kilomba n'ont pas prêté serment au Palais de la Nation devant le président de la République. Dans une correspondance adressée au chef de l'État reçue peu avant la cérémonie de prestation de serment, les deux anciens juges constitutionnels affirment préférer garder leur mandat à la Cour constitutionnelle jusqu'à expiration en avril 2021. Quelle est la conséquence de leur position sur le plan juridique? Jeff Ngoya a interrogé le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Suivez ses explications.
Le général Jean-Solo Biguevet fonde son argument sur fond de la loi portant statut des magistrats. Cette loi réglemente le régime disciplinaire et la prestation des serments des magistrats. À son article 13, la question des prestations des serments est réglée. Pour siéger et instruire une affaire, donc fonctionner comme magistrat, il faut préalablement prêter serment. Et à l'article 45, alinéa 3, la loi dispose que est considéré magistrat démissionnaire tout celui qui n'a pas prêté serment ou renouvelé dans un délai d'un mois. Selon le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, les deux juges ont bel et bien été notifiés de leur nomination par le Conseil, car eux-mêmes le reconnaissent dans leur lettre lorsqu'ils évoquent l'ordonnance présidentielle et le nommant le 17 juillet. En plus, dit-il, ils ont évacué tous leurs effets des bureaux de la Cour constitutionnelle. Ils ont aussi reçu les toges pour le nouveau serment et ont même procédé à la remise et reprise avec leurs prédécesseurs. Un magistrat est apolitique. L'ordonnance présidentielle le nommant abroge toutes les anciennes dispositions, argue le général.
Merci à vous, Jeff Ngoï. Docteur Kodjo Ndoukouma, je rappelle que vous êtes professeur de droit et régime politique comparé. Vous êtes aussi membre du PPRD, parti de la plateforme FCC. Comment vous expliquez la position de ces deux hauts magistrats?
Bon, je vous remercie et je salue respectueusement les deux invités également. Le 17 juillet 2020, il y a eu l'ordonnance numéro 20/108. Nommant différents magistrats dans l'ordre judiciaire, mais il y a eu deux magistrats, en la personne du juge Kilomba et du juge Oboulou, qui ont adressé un courrier demandant à rester à la Cour constitutionnelle plutôt que de lever l'option d'aller à la Cour de cassation. Alors, il se pose plusieurs problèmes de droit. C'est d'abord la séparation des ordres de juridiction, et puis la particularité du statut de juge à la Cour constitutionnelle se pose également une question de parallélisme de forme. Alors déjà, par rapport à ce que nous avons entendu du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, il y a l'article 90 de la loi organique numéro 6020 du 10 octobre 2006 qui porte les statuts des magistrats, tel que modifié en 2015, qui dispose que les dispositions de cette loi citée ne s'appliquent pas aux membres de la Cour constitutionnelle. Alors, qu'est-ce qui s'applique aux membres de la Cour constitutionnelle ? C'est l'ordonnance sur du 22 août 2016 portant les dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle. Alors, à l'article 9 de la cessation des fonctions des membres de la Cour constitutionnelle, il est question de l'expiration du mandat, de leur démission volontaire ou d'office, de la révocation ou du décès. Alors, la question se pose aujourd'hui parce que les deux juges venant du Conseil supérieur de la magistrature ont dit que leur mandat est de 9 ans sur base de l'article 158 de la Constitution et que l'ordonnance qui les nomme pour la Cour de cassation ne devrait pas mettre fin au cours de ce mandat qui est encore actif.
Docteur Kodjo, oui? Justement, peut-on comprendre que cette façon de percevoir les choses, même si on peut dire que ça se base sur des textes légaux, peut-on comprendre cela comme une façon de rejeter leur nouvelle nomination à la Cour de cassation?
Bon, déjà, il faut dire que ce sont les actes du président de la République, beaucoup de respect, on ne découvre pas la couronne. Nous essayons de comprendre et d'expliquer la dichotomie qu'il y a aujourd'hui entre une première ordonnance les ayant nommés à la Cour constitutionnelle pour 9 ans et une deuxième ordonnance qui intervient en juillet et qui met fin au cours de leur mandat. Et donc ce mandat est d'abord de 9 ans. Et ils disent, ces juges, qu'ils ne peuvent pas aller à la Cour de cassation parce qu'ils ne relèvent pas de cet ordre de juridiction et sont dans un statut particulier. La deuxième chose qui est plausible, c'est qu'on a le principe de l'inamovibilité des magistrats, dans le sens où, et même c'est consacré dans les différentes lois, ce n'est que si un magistrat accepte de pouvoir occuper une nouvelle fonction autre que celle de juge de cour constitutionnelle, que cela peut être possible. Nous l'avons vécu également avec le professeur Vundwawe.
Docteur Kodjo,
mais dans
cela
le
dire...
cas d'espèce, leur consentement n'a pas été donné.
Docteur Kodjo, vous allez nous aider, hein, vous allez nous aider, c'est des matières techniques. Cela veut dire que lorsque un juge est nommé à la Cour constitutionnelle, il est inamovible aussi longtemps qu'il n'a pas achevé son mandat de 9 ans, c'est ça?
Oui, parce que c'est ce que l'article 6 de la loi organique numéro 13026 du 15 octobre 2013 sur la Cour constitutionnelle dit, c'est-à-dire le mandat des membres de la Cour est de 9 ans, il n'est pas renouvelable. Quand vous revenez à l'article 158 de la Constitution, la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, mais il y a 3 qui sont désignés par le Parlement réuni en Congrès, 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et 3 sur sa propre initiative. Et j'ajoute rapidement l'élément selon lequel les deux magistrats qui ont adressé leur correspondance au président de la République étaient issus de l'un des groupes qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature. Et selon la Constitution, le renouvellement de la Cour constitutionnelle se fait au tiers, mais en raison d'un seul membre par groupe. Et donc c'est également une question de droit qui se pose, d'autant que pour le juge Philo Kalouba, nous avons compris qu'il relève de l'initiative du président de la République en remplacement du juge Luamba qui était de ce groupe-là. Et donc, pour Philo, le juge Philo, le problème ne se pose pas. Maintenant, il y aura a posteriori un autre problème, celui de l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la loi de 2013, parce que pour entrer en fonction, il faut que les membres de la Cour soient présentés à la nation devant le président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, maintenant qu'il y a, on peut dire, cet incident de droit constitutionnel et de droit judiciaire, est-ce qu'on pourra encore procéder pour le remplacement des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle à leur prestation de serment devant le Congrès et devant le président de la République, ou il faudra considérer qu'il n'y a pas eu parallélisme de forme et qu'il y a coexistence aujourd'hui d'une ordonnance nommant à la Cour de cassation qui n'a pas été suivie par les deux juges et une ancienne ordonnance d'investiture nommant ces membres-là à la Cour constitutionnelle avec les statuts particuliers qu'ils ont, les principes d'inamovibilité et également le fait qu'ils n'ont pas levé l'option ni qu'ils ont été révoqués pour pouvoir quitter les fonctions à la Cour constitutionnelle.
Voilà, parce que vous avez évoqué certaines conditions, vous dites qu'il doit être présenté devant les chefs de l'État, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut établir un lien entre l'attitude affichée par ces deux hauts magistrats et la position du Premier ministre qui, non seulement il n'était pas présent lors de la prestation de serment, mais aussi quelques jours après la publication de ces ordonnances, il avait affirmé que ces nominations n'avaient pas respecté la procédure légale et avait même dénoncé les contresseins du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'on se tromperait si on établissait un lien entre l'attitude de ces hauts magistrats, les deux hauts magistrats, et l'attitude du Premier ministre?
Bon, nous avons d'abord parlé en droit et la magistrature est apolitique. Mais maintenant, en passant d'un champ à un autre, on est dans la politique. Je pense que le Premier ministre,
justement, la dimension politique.
Je vous réponds, il est resté cohérent avec sa position qui était coulée dans son communiqué en disant qu'il n'a pas été concerté par son intérimaire pour donner son contresens sur les actes de nomination découlant de l'article 82 de la Constitution pour la magistrature. Et dans cette cohérence de parole et dans cette cohérence d'actes, il est fort probable que son abstention de prendre part à une cérémonie de prestation de serment soit dans la même unité d'intention et de but, de démontrer politiquement qu'il n'a pas eu à endosser ces actes dès leur origine. Mais ce n'est pas l'attitude du Premier ministre ou l'attitude des politiques qui va réapprendre aux magistrats le droit et ce droit qu'ils ont coulé avec une plume pure dans leur lettre adressée au président de la République.
Voilà, vous avez évoqué les caractères inamovibles d'un juge constitutionnel, mais à en croire le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, les deux hauts magistrats ont bel et bien été notifiés de leur nomination, ils ont même évacué tous leurs effets des bureaux de la Cour constitutionnelle, ils ont aussi reçu les toges pour les nouveaux serments, et ont même procédé, n'est-ce pas, à la remise et reprise. Mais ils savaient très bien qu'ils étaient inamovibles, mais pourquoi ils étaient en train de s'apprêter pour partir? Et après, ils ont changé de décision. Est-ce qu'on ne peut pas ici dire, comme on le pense, une certaine opinion, qu'ils ont reçu des pressions de la part des hommes politiques?
Il y a le libre arbitre et ce sont des choix personnels. Vous allez remarquer qu'en 2014, donc en juillet 2014, le juge Kilomba et en avril 2018, le juge Ouboulou avaient adressé leur lettre et l'option de ne plus travailler à la Cour suprême de justice. Il y a certes des cadres statutaires, mais il y a également l'option personnelle que chacun lève dans son libre arbitre. Bon, l'inamovibilité est à prendre dans la situation juridique et non dans un effet physique du mouvement des corps et des astres. L'inamovibilité, c'est la situation juridique de celui qui, investi d'une fonction publique, ne peut être révoqué, suspendu ou déplacé, même en avancement ou mis à la retraite prématurément. Ça, c'est le vocabulaire juridique qui le dit. Mais quand on revient aux articles 10 et 11 de la loi organique numéro 6 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, qui n'est d'ailleurs pas applicable aux membres de la Cour constitutionnelle, vous remarquerez qu'il est dit à l'article 11, le président de la République a le seul pouvoir de promouvoir le magistrat sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et quand vous allez à l'annexe de cette loi de 2006 sur la magistrature, vous trouvez un ordre hiérarchique des grades de magistrats qui reprennent ceux de la Cour de cassation et ceux du Conseil d'État, mais nullement ceux de la Cour constitutionnelle, parce que l'article 90 de cette même loi ne leur est pas applicable. Cela signifie que quand on est juge à la Cour constitutionnelle, on est inamovible, bien entendu, et on est vraiment au sommet de la hiérarchie pyramidale des ordres juridictionnels. Et quand on vous déplace, ça doit nécessairement avoir une incidence sur le niveau de grade que vous avez. Est-ce que être juge à la Cour constitutionnelle et demain devenir président à la Cour de cassation est une équivalence de grade qui correspondrait à une promotion ou à une rétrogradation? Et je pense que ce sont ces questions de droit qui se posent.
Merci, donc, docteur Kodjo. Merci, on va vous redonner la parole. Maître Peter Kazadi, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre du CACH. Comment vous comprenez cette situation?
Moi, je pense qu'il faut commencer par les commencements. Quand est-ce qu'un mandat d'un juge constitutionnel peut prendre fin? Lorsque vous lisez les dispositions de la loi que Maître Kodjo a citée abondamment ici, il s'agit de la loi organique portant l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Il est dit quelque part que les fonctions des juges constitutionnels prennent fin à terme de leur mandat, par expiration de leur mandat, démission volontaire ou d'office ou révocation. Et l'article 34 de la loi organique de la même loi dit que est réputé avoir démissionné d'office tout membre de la Cour constitutionnelle se trouvant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'article 31 de la même loi. Alors, quand est-ce qu'il y a incompatibilité? Et ici, je vais me référer au passé. Il y a incompatibilité lorsque les juges constitutionnels se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas exercer, ou en tout cas où il y a la loi qui interdit l'exercice de certaines fonctions. C'est le cas du professeur Luzolo, nommé juge constitutionnel. Lorsqu'il a été nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de la lutte contre la corruption, il a préféré aller dans ses nouvelles fonctions. Donc, il s'est retrouvé dans une situation d'incompatibilité. Alors, que dit la loi? Toujours la même loi. L'article 31 de la même loi dit que les juges constitutionnels qui ne se seraient pas prononcés en renonçant à ce qui les place dans la situation d'incompatibilité dans un délai de 8 jours de sa notification est réputé démissionnaire. C'est dans ce contexte, dans les cas précis, que se trouvent aujourd'hui nos deux juges. Ils ont la liberté de refuser tout déplacement de là où ils se trouvent. Ça, c'est reconnu par la loi. Mais cette liberté de refuser est également réglementée par la loi. Il fallait respecter le délai de 8 jours. J'ai sous mes yeux ici la lettre de juge concerné avec l'accusé de réception, non pas à la présidence de la République, mais plutôt au secrétariat de la Cour constitutionnelle. Et l'accusé de réception est le 4 août 2020. Alors, regardez la date de la notification des juges et la date à laquelle ils vont déposer leur courrier, bien que on a mis la date du 27 juillet. Ils ont déposé cette lettre le 4 août. Donc vous allez constater que c'est au-delà des 8 jours prévus par la loi. Rien que par ce fait, je pense qu'on ne peut plus faire les débats. Alors, si on doit continuer à enseigner en droit comparé, on verra que le professeur Ondoa, puisque j'ai entendu le professeur Lukuma invoquer l'inamovibilité des juges, qu'on ne peut pas les toucher, mais il a oublié de faire une comparaison avec le cas de Luzolo, le cas de Bundawe. Est-ce exprès qu'il l'ait fait ou tout simplement pour besoin de la cause?
Maître Peter Kazadi, s'il faut se référer à l'article 31 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, on peut aujourd'hui dire que parce que ces deux hauts magistrats n'ont pas respecté le délai de 8 jours, aujourd'hui ils sont réputés démissionnaires, selon vous?
Absolument, absolument. C'est un effet à tout débat. Encore que les débats dans son ensemble, on ne fait que marcher sur les sentiers battus, hier soutenus par le professeur Kodjo. Donc, rien que l'article 31 que vous venez de citer met fin à tous ces débats. Donc, le droit de renoncer, de refuser tout déplacement est reconnu au magistrat, mais il fallait le faire dans les délais de 8 jours.
Voilà, vous avez évoqué aussi l'article 34 de la même loi sur l'incompatibilité, mais je pense que l'incompatibilité ne s'applique pas dans les cas d'espèce, Maître Peter Kazadi.
Mais bien sûr, on ne peut pas être, dès lors que le président de la République a pris une ordonnance vous nommant à toute autre fonction que celle du juge de la Cour constitutionnelle, il y a une incompatibilité. Il ne pouvait pas être à la fois juge de la Cour de cassation et en même temps le juge constitutionnel. Donc il fallait choisir dans le délai, dire que non, monsieur le président, je vous remercie pour la nomination là-bas, mais moi je préfère rester à la Cour, mais dans les délais, ceux qui ne l'ont pas fait.
Voilà, et s'il faut évoquer la dimension politique de la question, nous avons parlé des liens. Est-ce qu'on peut établir les liens entre l'attitude de ces deux juges et l'attitude du Premier ministre qui, non seulement il s'est absenté le jour de la prestation de serment, mais également il avait dénoncé les ordonnances du chef de l'État. Il avait estimé que ces ordonnances n'avaient pas respecté la procédure légale et il avait même dénoncé, n'est-ce pas, les contre-saints du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut établir un lien entre l'attitude du Premier ministre et la position de ces deux hauts magistrats?
Oui, il y a des implications politiques là-dedans. Le Premier ministre a subi la pression de sa famille politique. Également, les juges qui sont censés être apolitiques ont malheureusement aussi obéi à un mot d'ordre politique venu de l'endroit que l'on peut bien imaginer. Donc, on vous a dit d'entrée du jeu, on nous a dit ici qu'ils ont participé à l'assimilation. Ils ont été chez Okasol, là où on leur confectionne leur tenue. Tout a été fait, ils avaient fait la remise et reprise, ils avaient même quitté leur bureau de la Cour constitutionnelle, mais voilà qu'en dernière minute, ils décident de ne pas se présenter à la manifestation. Donc, ils ont obéi à un mot d'ordre quelque part.
Merci, Maître Willy Wenga, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Une première, n'est-ce pas, dans l'histoire juridique de la RDC, des juges qui rejettent leur nomination, refusent d'aller là où ils ont été nommés. Comment vous analysez cela?
Merci beaucoup, Guy Maté, par rapport à l'invitation de lancer ce soir. Cependant, je dois dire que la première fois que cela arrive, mais ça arrive par rapport à une institution, la Cour constitutionnelle qui est aussi nouvelle dans notre pays, cela n'est jamais arrivé par rapport aux magistrats de carrière et dans les structures de juridiction de l'ordre judiciaire. Et ici, je note que le débat devait être dépassionné, mais avant d'entrer à la matière, je salue le professeur Kodjo, je salue mon confrère, mon éminent confrère, ami et frère Peter Kazadi, avec qui j'ai beaucoup d'estime, mais parce qu'ils sont liés par une histoire professionnelle commune. Et ici, je voulais revenir sur le fait que je suis informé à travers les interventions que les deux juges devenus présidents à la Cour de cassation par la nomination qui leur a été notifiée au regard des ordonnances signées par son instance, monsieur le président de la République, sont arrivés jusqu'au bout, ou seraient arrivés jusqu'au bout avec la séance de simulation, le retrait de leur toge. Cela signifie qu'ils ont libéré leur bureau, ils ont emballé leurs affaires. Et lorsque vous suivez tout ce mouvement dans l'attitude de ces juges-là, tout porte à croire que les deux juges ont pris acte des ordonnances qui ont été signées par le président de la République et se sont préparés à aller vers leurs nouvelles affectations comme président de la Cour de cassation. Mais la question fondamentale qu'on devait se poser ce soir est celle de savoir qu'est-ce qui est arrivé à la dernière minute. Qu'est-ce qui est arrivé aux juges à la dernière minute, dès lors que le dimanche, ils étaient à l'assimilation, et le 4, comme dit Maître Peter Kazadi, c'est que c'est le 4 qu'ils ont déposé leur courrier au niveau du Conseil supérieur de la magistrature ou bien à la Cour constitutionnelle. Je me pose la question ce soir, est-ce que, après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, les juges ont-ils refusé de prêter serment, ou après qu'ils aient écrit leur lettre, le Conseil supérieur de la magistrature a constaté que cette lettre serait un empêchement au serment? La question fondamentale est celle-là, parce que je n'aimerais pas, ce soir, Guy Maté, que les choses apparaissent comme si on était en train de clouer ces juges-là, on était en train de les considérer comme des révoltés, comme des personnes sur qui on doit jeter toutes les pierres, mais je voudrais qu'on puisse réfléchir en termes de savoir qu'est-ce qui s'est passé.
Alors, Maître Willy Wenga, à votre avis, qu'est-ce qui se serait passé parce que vous estimez qu'ils ont, de par leur attitude, ils ont pris acte, n'est-ce pas, des ordonnances les nommant à la Cour de cassation, mais qu'à la dernière minute, les choses ont changé. Est-ce que ce n'est pas là qu'intervient la dimension politique? Vous avez suivi Maître Peter Kazadi, qui, lui, est convaincu qu'ils ont reçu des pressions de la part des hommes politiques.
Je note avec intérêt que les deux juges que je connais très bien, je connais Kilomba, je connais le juge Oubounou, ce sont des éminents juges, et Peter les connaît, et tout le monde le connaît, c'est que je me dis, est-ce que le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, après avoir reçu leur lettre en ampliation, n'a-t-il pas trouvé en cette lettre un empêchement ou une occasion de suspendre leur serment? C'est ça la question que je me pose. Parce que je ne vois pas le des juges qui savent ce que signifie une carrière, qui savent ce que signifie une fonction. Parce que Guy Maté, il ne peut pas tolérer être président à la Cour de cassation et d'autant prestigieux que te dit la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour de cassation, c'est une des trois hautes juridictions du pays. Et lorsque Kilomba est parti à la Cour constitutionnelle, lorsque Oumoulou est parti à la Cour constitutionnelle, ils sont partis comme des simples conseillers à la Cour suprême de justice. Et que retourner à la Cour de cassation, maintenant qu'il y a Conseil d'État et Cour constitutionnelle, comme président, je me dis quelque part que par rapport à leur carrière, et comme tout le monde ne peut pas être nommé premier président de la Cour de cassation, ils ont au moins été élevés en grade. Parce qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de grade. Tous les juges sont égaux, sauf qu'il y a un des juges qui est élu par les autres comme président. Mais à la magistrature de l'ordre judiciaire, il y a au moins des grades et des fonctions. Et on ne peut avoir qu'un premier président de la Cour de cassation, mais plusieurs présidents. Et un de grade d'élévation par rapport au grade antérieur du conseiller Oumoulou et conseiller Kilomba est d'avoir été élevé au rang de président. Et cela est prestigieux pour eux. Ce qu'il faut retenir ici, c'est de se poser là, parce qu'on ne peut pas juger le comportement de deux juges sans savoir ce qui s'est passé. Si les juges, après avoir pris acte de l'ordonnance, étant juge et connaissant très bien qu'ils ne peuvent pas accepter les choses pour l'accepter, mais tout en acceptant d'aller à la Cour de cassation, il faut quand même exercer une voie de recours, et qu'ils étaient prêts à aller au serment, et qu'ils ont été empêchés par le Conseil de la magistrature, il n'y a aucun péché qu'ils auraient commis par rapport à cela. Mais si par exemple, les juges, après avoir pris acte, après avoir libéré le bureau, après avoir procédé à la remise reprise, ils ont été approchés par le politicien qui les auront entêtés, malgré tout ce qu'ils ont fait, à ne pas prêter serment, je dois avouer que, connaissant la sagesse des juges, ils ont été induits en erreur par le politicien, dès lors qu'ils ne pouvaient pas suivre l'oreille des politiciens à refuser à prêter serment. Et partant, ils se sont laissés entre deux eaux, comme disait Moudimbevou Mbioka, ils se sont laissés entre deux eaux, dès lors que ils ne sont plus de la Cour constitutionnelle, dès lors que les ordonnances plénomant ont été abrogées, ils n'ont pas prêté serment à la Cour de cassation, et partant, ils ne peuvent pas entrer en fonction. À ce moment-là, il y a un problème sérieux. Mais si le fait de ne pas prêter serment est venu du fait d'avoir été empêché par la hiérarchie de la magistrature pour avoir introduit un recours, à ce moment-là, il y a un problème que le Conseil de la magistrature doit assumer et corriger pour leur permettre de prêter serment.
Merci, maître. Docteur Kodjo Ndoukouma, les auditeurs sont intéressés par ces sujets. Et nous avons l'auditeur qui nous écrit de Mbandaka, il s'appelle Blaise Monkangou. Il dit ceci, ils doivent être révoqués par le président de la République à cause de l'insubordination. Luzolo Bambi, à une année, avait quitté la Cour constitutionnelle sur ordonnance du président de la République. Il n'y a pas de violation de la Constitution, y compris Vundwawe. Ils doivent respecter les magistrats suprêmes.
Bon, je suis très heureux d'entendre des juristes aguerris. Il y a le cas d'incompatibilité soulevé par maître Peter Kazadi, et puis il y a le cas de bonne foi des juges et de bonne foi du président de la République à pouvoir les promouvoir à une fonction. C'est ce que j'ai entendu dans l'entretemps. Mais parler d'insubordination, je vais dire d'abord à l'auditeur, selon l'article 150 de la Constitution, le juge, qui est magistrat de siège, n'est soumis qu'à l'autorité de la loi pour les devoirs qu'il est en train de poser ou pour sa conviction personnelle. Et donc, il faut plutôt aller dans le cas à traiter des incompatibilités pertinemment soulevées par maître Peter Kazadi et creuser cette question-là. Il n'y a pas insubordination du tout, c'est le droit d'option exercé par ces juges de continuer à appartenir à la Cour constitutionnelle, qui est une autre juridiction, plutôt que d'aller à la Cour de cassation. Donc il n'y a pas insubordination, à mon avis. Mais simplement, maintenant, il faut faire un traitement, oui, administratif, avec la présidence de la République, de leurs lettres qu'ils ont adressées effectivement au président de la République. Le pouvoir d'État, comme le définit Alain, c'est la force qualifiée par le droit. Ça veut dire qu'on peut considérer qu'ils ont eu une raison de ne pas prêter serment le jour avant-hier, parce que simplement ils ont demandé au président de la République de faire cas à leur demande de rester à la Cour constitutionnelle, et que cela mérite une réponse. Alors, l'une des réponses données par Maître Peter Kazadi et qui mérite quelques secondes ou quelques minutes d'approfondissement, c'est à l'article 31 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cet article précise que lorsque on est dans une situation d'incompatibilité, on ne peut plus être membre de la Cour constitutionnelle. Mais cette incompatibilité a quoi comme sanction ? L'incompatibilité a comme sanction le non-cumul des fonctions publiques. On ne peut pas à la fois cumuler le statut de juge à la Cour constitutionnelle et celui de président ou de juge à la Cour de cassation. Mais maintenant, j'aimerais que Maître Peter Kazadi nous donne la disposition que je n'avais pas bien entendue sur les 8 jours en dehors desquels les juges se trouvant dans une situation d'incompatibilité qui n'est pas de leur fait devraient pouvoir donner leur position. Ça, c'est intéressant. Bon, maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'il y a-t-il eu parallélisme de forme ? D'une part, Maître Willy Wenga dit qu'il y a eu promotion. Mais est-ce qu'on peut promouvoir un juge de la Cour constitutionnelle ? Il n'y a pas de pyramide au niveau de la Cour constitutionnelle. Et même lorsque nous faisions encore nos études de droit public, on nous disait qu'il y a 2 ordres de juridiction, donc le Conseil d'État et la Cour de cassation qui les chapeaute, plus la Cour constitutionnelle. Le Maître Wenga situe la promotion au niveau du départ du juge Ouboulou et du juge Kilomba de leur fonction de conseiller à la Cour de cassation ou à la Cour suprême de justice, et ils sont venus à la Cour constitutionnelle et ils retournent à la Cour de cassation comme président à un grade supérieur. Mais il n'y a pas de linéarité de ce plan de carrière. Dès qu'ils sont arrivés à la Cour constitutionnelle, ils sont juges à la Cour constitutionnelle avec un statut particulier. La deuxième chose, est-ce qu'on peut considérer que cette ordonnance, si elle n'est pas une ordonnance de promotion, qu'elle est une ordonnance de révocation, parce qu'on dit dans la deuxième ordonnance de juillet que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Est-ce que la deuxième ordonnance du président de la République du 17 juillet 2020 portant sur les mêmes personnes qui ont été nommées en 2018, est-ce que cette ordonnance peut être une ordonnance révocatoire ? C'est ce que ces juges disent que ça ne l'est pas. On ne peut pas révoquer, c'est ça le principe de l'inamovibilité. Donc, si on doit pouvoir trouver des réponses à cette question, nous devrions attendre que le cabinet du président de la République ou le président de la République à qui la correspondance est adressée puisse répondre, parce que le pouvoir est la force qualifiée par le droit, pour que nous sachions, est-ce que ces juges aujourd'hui sont dans une situation d'incompatibilité, qu'ils n'ont pas prêté serment et en déant 30 jours au niveau de la Cour de cassation, on doit les révoquer, ou on doit être fixé sur le fait de savoir, bon, le président de la République, en garant du bon fonctionnement des institutions, en symbole de la nation, en juge et arbitre exemplaire, a pu leur répondre sur ces questions-là.
Merci, docteur Kodjo. Nous allons vous redonner la parole. Maître Peter Kazadi, vous allez réagir à ces commentaires qui viennent de Bukavu au sud Kivu.
Madeleine Kakumbu, Jules, à Bukavu, au nom d'un état de droit, les magistrats ont le droit de refuser cette prestation de serment devant le président de la République. Car c'est le président de la République qui ne cesse de prôner avec trompette l'état de droit. Cependant, il ne pouvait pas se réveiller un bon matin et publier ses ordonnances afin de chercher le positionnement politique. Nous savons tous l'état de santé de la coalition FCC-CACH. Bien que les nouvelles ordonnances du président de la République abrogent les anciennes, le président de la République n'allait pas perturber ses magistrats en plein mandat. Car il y a d'autres magistrats qui pourraient bien occuper ce poste à la Cour de cassation. La nouvelle violation de la Constitution va dans le rang d'une haute trahison. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi du Chilombo, devrait annuler ses ordonnances nommant ses magistrats.
Maître Peter Kazadi.
Oui, je crois avoir donné des réponses à cette préoccupation en disant qu'effectivement, les magistrats avaient le droit de choisir dans un délai de 8 jours. Et là, Maître Kodjo demandait la disposition. C'est l'article 31 de la loi qu'il a cité. Et puis, lorsque Maître Kodjo estime que ces ordonnances sont des ordonnances de révocation, serait-il d'accord que Luzolo a été aussi révoqué, Wundawe l'a été également? J'aimerais qu'il nous précise là aussi, puisque lui, c'est un spécialiste du droit comparé. Il parle de la promotion, il estime que le fait d'être nommé juge, président des chambres à la Cour de cassation n'est pas une promotion par rapport aux fonctions des juges constitutionnels. Maître Kodjo devait savoir que les magistrats à la Cour, ou en tout cas les juges constitutionnels, ce n'est pas une carrière qu'ils sont en train de mener, c'est un mandat. Et en réalité, ce mandat peut s'arrêter à 3 ans, puisque chaque 3 ans, on doit renouveler l'écart de cette Cour. Alors, s'il arrivait que par tirage au sort, les deux juges, ou en tout cas l'un d'eux, soient retirés de la Cour constitutionnelle, quel allait être leur statut? Puisqu'ils sont des magistrats de carrière, ils devaient rentrer à la Cour de cassation, non pas comme président des chambres, mais comme des conseillers. Ici, le président de la République les a promis à des fonctions supérieures dans leur carrière. Alors, on ne peut pas ici dire qu'il s'agit d'une rétrogradation. Non, pas du tout.
Maître Peter, réagissant au commentaire de l'auditeur de Mandaka qui a évoqué les cas d'insubordination, Dr Kodjo Ndukuma dit qu'il n'y a pas d'insubordination. Et donc, cela veut dire que le caractère du juge suprême, du chef de l'État, ne s'applique qu'au juge de l'ordre judiciaire et non au juge de la Cour constitutionnelle.
Non. Les juges de la Cour constitutionnelle, pour les devenir, ils ont été nommés par le président de la République. Donc, dès lors que, et surtout qu'ici, il s'agit de magistrats de carrière, on leur donne une promotion dans leur carrière de magistrat. Non seulement, ils ne respectent pas la loi qui régit les statuts particuliers des membres de la Cour constitutionnelle qui leur impose un délai de 8 jours pour renoncer, mais ils refusent même d'aller prêter serment là où ils ont été nommés. Il s'agit d'une insubordination inacceptable. C'est pour la première fois que ceci se produit dans l'histoire judiciaire de notre pays.
Merci.
C'est vraiment un cas malheureux.
Merci. Maître Willy Wenga, vous allez réagir à ce point de vue de l'auditeur qui nous écrit depuis Tikapa.
C'est Espérance Jardel Ilunga Mayamba à Tikapa depuis le Kassai. Sur le plan des droits, ils ont raison, mais mal procédé leur démarche, voulant faire comprendre au chef de l'État comment ça se passe. Ici, nous tenons tout à rappeler que les ordonnances présidentielles sont les actes administratifs et l'exécution est obligatoire. Et ceci nous pousse encore de dire que le magistrat est un agent public de l'État et non un agent politique qui peut faire les déclarations à la place publique.
Maître Wilena.
Merci beaucoup. Je viens de suivre cet auditeur qui vient de nous appeler depuis Tikapa. Je dois noter que, comme je l'ai dit dès le départ et à travers d'autres médias, c'est que la situation qui se passe concernant les deux juges, c'est une situation très préoccupante. À ce que sur le plan du droit, la loi est claire, la constitution est claire, c'est que lorsque vous lisez la constitution, l'article 58 dont parle le temps, c'est que le mandat des juges constitutionnels est de 9 ans. Renouvelable par tiers, on passe par le tirage au sort comme la loi l'a dit. Et ici, je pense que la question fondamentale, Guy Maté, est celle de savoir si le mandat de 9 ans dont parle la Constitution et la loi organique portant fonctionnement de la Cour constitutionnelle doit être compris comme un mandat interruptible, un mandat qu'on peut interrompre à tout moment par une nomination par le président de la République, ou un mandat ferme qu'on ne peut pas bouger au nom de l'inamovibilité, comme j'ai entendu parler tout à l'heure.
Et à votre avis,
je pense que,
et à votre avis,
à mon avis, moi, je pense que ce mandat-là devait rester un mandat ferme. Et que, parce que la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction politico-juridique. Et à ce titre-là, on doit garantir au juge une certaine permanence en termes de mandat pour assumer à bien ses fonctions. Lorsque le juge sait que à tout moment, on peut les remplacer. À tout moment, on peut les nommer à d'autres fonctions. À tout moment, on peut mettre fin à son mandat. Ça devient fragile. Toutefois, je dis, M. Guy Maté, que sur le plan des droits, il y a des problèmes sérieux. Et là, nous devons le reconnaître. Sur le plan de la procédure, il y a aussi des problèmes. Il faut le reconnaître.
Alors, quelles sont les conséquences, maître Willy Wenga? Quelles pourraient être les conséquences, n'est-ce pas, de cette attitude de ces deux juges sur le plan juridique?
Sur le plan juridique, les deux juges, comme ils le savent très bien, ils n'ont qu'à saisir la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité des ordonnances du chef de l'État qu'ils considèrent avoir porté grief. Ou, à défaut de saisir la Cour constitutionnelle, ils peuvent saisir le Conseil d'État en annulation de ces ordonnances pour excès de pouvoir du président de la République, par exemple. Au lieu de faire trop de bruit, les juges ne peuvent pas faire de bruit dans la rue. Les juges ne peuvent pas, par leur comportement, laisser ou bien ouvrir la brèche à des politiciens. Aujourd'hui, maintenant, de par le fait que le comportement des juges, qui est un comportement légitime d'exercer une voie de recours, fait objet des réseaux sociaux et de discussions dans le public, ça devient comme si ces juges-là ont été manipulés par le politique, ont été poussés par le politique à désobéir au chef de l'État. Et la conséquence juridique, c'est quoi? C'est qu'après avoir été nommé juge magistrat à la Cour de cassation, conformément à la loi, après avoir été, révoqué, démis ou remplacé de la Cour constitutionnelle pour aller exercer leur fonction de carrière, j'insiste très bien, et là je réponds au professeur qui est avec nous ce soir,
Kodjo.
C'est que, en disant que la carrière de magistrat, lorsqu'ils sont envoyés à la Cour constitutionnelle, j'ai toujours considéré la nomination à la Cour constitutionnelle comme étant un détachement, et qu'à la fin du mandat, le magistrat devra rentrer dans l'ordre judiciaire.
Merci.
Où il exerce une carrière, laquelle carrière a des grades et des fonctions, où il doit, chaque fois que la loi le lui autorise, aller au grade supérieur.
Merci, maître Willy Wenga. En conclusion, comment vous entrevoyez la suite? Et donc, vous conseillerez à ces deux hauts magistrats de pouvoir saisir la justice?
Je conseille à ces deux magistrats, d'une part, de saisir la justice et de laisser tout bruit, et d'autre part, de prêter serment, parce que on peut ne pas être rétabli dans ses droits par rapport à la Cour constitutionnelle, mais aller reconnaître leurs droits, tout en étant la Cour de cassation, c'est un prestige pour eux.
Merci. Merci, docteur Kodjo Ndoukouma. C'est quoi les conséquences juridiques de cette situation?
Bon, annoncer des augures beaucoup plus corsés. Il y a une question de légalité formelle qui a été soulevée, c'est lié à l'article 158 de la Constitution, qui autorise bien sûr en tout état de cause de renouveler au tiers tous les 3 ans la Cour constitutionnelle, mais en puisant dans le quota un seul membre par groupe. Or là, il y a eu 2 membres du groupe venant de la magistrature. Donc il va se poser ce problème de légalité formelle de l'ordonnance, mais c'est un acte administratif individuel. Est-ce que ces deux juges vont aller jusqu'au Conseil d'État? Je vois bien les réflexes de l'avocat rompu, le confrère Wenga, parce que je le suis aussi. Est-ce qu'ils vont aller, après ce recours qu'on peut considérer comme recours administratif préalable, aller jusqu'au Conseil d'État, obtenir l'annulation de l'ordonnance, les déplaçant vers la Cour de cassation? Ça, c'est eux-mêmes qui le diront.
Merci.
Maintenant, pour le délai de forclusion, ne pouvait-il plus écrire au président et, se trouvant dans une situation d'incompatibilité, ils ont perdu l'ancien grade? C'est l'article 34 pour maître titeur de la loi organique de 2013. Le devoir de réserve également, comment est-ce que cette lettre a pu fuiter dans les réseaux sociaux? C'est un problème, parce qu'on s'adresse quand même au président de la République. Et on ne devrait pas le mettre dans l'embarras de pouvoir,
merci,
vous répondre tant que l'opinion est déjà montée.
Merci. Maître Peter Kazadi, votre conclusion, c'est quoi les conséquences et juridiques et politiques de cette situation?
Juridiquement, je crois que le débat est clos. Les juges se sont placés dans des conditions telles qu'ils ne peuvent plus être ni juges de la Cour constitutionnelle, moins encore les juges de la Cour de cassation. Sauf si les autorités du Conseil supérieur de la magistrature qui les avaient proposés à ces postes décidaient autrement, avec bien sûr l'accord du président de la République qui, à mon sens, est dans les cas d'espèce dans une position d'être humilié par les magistrats.
Et les partis de la politique maintenant,
ceux qui veulent politiser la justice, ils ne rendent pas un service à la nation. La justice doit être effectivement indépendante. On ne peut pas aujourd'hui nous mettre à nous partager les postes dans la magistrature comme dans l'armée. ça serait très très dangereux si les gens raisonnent de cette manière-là.
Merci Maître Peter Kazadi, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission, merci à Paul Baganyama qui était à la technique, merci à Kéline Kouté et Donna Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté, merci et bonne suite des programmes sur Radio Capi.